studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Bonsoir, bienvenue sur Europe. J'espère que la journée n'a pas été trop pénible. On va essayer de vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez totalement détendu, c'est-à-dire jusqu'à 20h30. Avec Wendy qui est là, nous allons recevoir dans un instant une comédienne que vous adorez, une des comédiennes les plus populaires de ce pays, qui pour la première fois est seule sur scène, mais c'est pas One Man Show. Elle joue une pièce qui a pour titre Mon brillantissime divorce. C'est Michel Larocque, qu'on peut déjà applaudir.
Bonsoir.
Mais d'abord, Wendy va nous donner le sommaire.
Et oui, Michel Larocque, donc sur scène à partir du 22 septembre au Théâtre du Palais Royal. Vous croiserez un peu avant 20h un chanteur québécois qui a fait craquer pas mal de filles. Vous nous direz si c'était votre cas, Michel, et qui revisite dans son nouvel album Americana 2 les grands standards de la musique country américaine en anglais et en français. C'est Rock Voisine qui sera notre invité dans Studio Europe 1. Dans un quart d'heure, les répondeurs VIP de Jérôme Darran. 100% politique, ce soir, il intercepte les messageries de Ségolène Royal et de Christine Lagarde. Vers 19h30, le meilleur de Nicolas Canteloup avec Julie. 8h moins le quart, le coup de cœur des stars. Ce soir, c'est Laurent Deutsch qui a été inspiré par le livre de Pierre Péan, Une blessure française, et puis par la musique baroque de Vincent Dumestre. Il nous dit tout. Après le journal, 20h10, on fera un zoom sur un des livres féminins de la rentrée, Mauvaise fille de Justine Lévy, décrypté par Pierre de Villeneuve, un livre émouvant où la romancière accouche alors qu'elle perd sa maman. Et puis Raphaël Mesrahil décortique l'actu, toujours, de Rock Voisine, cette fois avec des enfants, Zélie et Lou, qui visiblement préfèrent les standards, eux, de Dassin. Studio Europe 1, c'est en public et en direct, et vous nous appelez pour assister à l'émission au 39 21.
Studio Europe 1.
Wendy Bouchard, Michel Drucker.
Michel Larocque est notre invité. On va en profiter parce qu'elle doit partir dans trois quarts d'heure. Alors Michel, vous êtes Angela à partir du 22 septembre sur oui. la scène d'un théâtre mythique qui est un théâtre magnifique, le Palais Royal.
Ouais, oui.
Et Jean-Michel Rousier aurait aimé vous voir sur scène, j'en suis sûr. Mmh. Alors, c'est la première fois que vous êtes seul en scène, mais c'est pas un one man show, c'est une pièce anglaise que vous avez adaptée.
Absolument.
Et que vous aviez déjà en tête depuis longtemps. Vous l'avez découvert comment, cette pièce?
On m'avait donné cette pièce à lire il y a environ 2 ans et j'ai mis du temps à me décider parce que justement j'avais pas vraiment envie de jouer seul. Donc j'ai laissé mûrir tout ça et puis tout d'un coup j'ai dit c'est bon, je suis prête, j'y vais. Je fonce.
Mon brillantissime divorce. Le titre au départ, c'était pas ça.
Non.
Mais brillantissime, ça veut dire que ça veut dire beaucoup de choses.
Ben non, il y a un petit côté ironique quand même. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça peut être un petit peu pathétique par moment, mais ça, oui, effectivement, ça se termine très bien en l'occurrence.
On voit d'ailleurs ce côté double face sur l'affiche. Oui. Hein, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure.
Exactement.
Michel Larocque, votre mari vient donc de vous quitter sur scène. C'était pas du tout prévu au programme, et vous avez beaucoup de mal à vous en remettre. Pourtant, ça fait quelques années.
Alors non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que le couple marchait bien. Oui. Sauf que elle ne s'est pas rendue compte, elle ne faisait plus aucun effort dans son couple, elle trouvait ça normal d'être avec lui, donc au bout d'un moment je pense que, ça c'est bon, c'est pas écrit hein, mais c'est moi qui ai imaginé ça vu ce qu'elle raconte, que lui il en a eu un petit peu marre, et quand il s'en va elle est d'abord très contente, hein. La première réaction c'est une énorme joie, ensuite ce qui la vexe un peu c'est quand elle apprend qu'elle est partie pour une Roumaine. Mmh.
De 25 ans.
Qui ne parle même pas français.
Oui, mais dites-moi, vous ne seriez pas vous-même d'origine vous-même.
Oui.
Nous sommes des compatriotes tous les
et
deux.
Et vous?
Non, c'est le hasard.
Voilà, c'est le hasard. Non, c'est une Mexicaine dans la pièce anglaise, mais moi j'ai eu envie de faire un petit clin d'œil. En roumain. Et donc ensuite, il va y avoir, comme sur l'affiche, des moments de grande joie et des moments de grand désespoir. Donc, elle appelle beaucoup SOS suicide. Elle tombe pas toujours sur les bons pour elle, mais bon. Et puis, ensuite, elle essaie de rencontrer d'autres hommes. Et puis après, il y a les visites à l'avocat, au médecin, parce qu'elle est un peu hypochondriaque.
Il y a le parcours du combattant, de la combattante, là.
Ah ouais. Oui, mais je trouve qu'elle est courageuse, hein, elle essaye vraiment, et puis ce qui est formidable c'est qu'elle part petite fille puis elle termine de femme, voilà, elle évolue dans le bon sens.
Alors, toutes les femmes qui nous écoutent ce soir qui ont vécu un divorce, oui. peut-être deux vont se reconnaître évidemment,
hein. Oui, enfin c'est jamais les mêmes, mais en tout cas ce qui fait du bien, ce qui est guérisseur dans ce genre de spectacle, c'est comme celui que j'avais fait avec Pierre Palmade, ils se sont aimés, ont divorcé, c'est qu'on voit qu'une situation qu'on peut vivre d'une manière dramatique, comme une victime peut en fait être drôle, on se rend compte qu'on n'est pas seul à la connaître, cette situation-là. On voit les gens rire des mêmes choses. Et du coup, ça, d'une part, dédramatise et ça guérit dans la mesure où ça donne une distance qui fait qu'on est moins au premier degré, voilà, avec des vieilles souffrances ravivées.
Vous retrouvez sur scène comme ça, toute seule pour une pièce, il a fallu un déclic, il est venu comment ce déclic? Cette femme vous a interpellé, vous l'avez imaginé, et l'adaptation que vous en avez créée explique que vous vous êtes lancé.
Oui, c'est ça, j'ai beaucoup aimé le personnage, je trouve qu'il est très sympathique, je l'ai d'abord voulu savoir si j'arrivais à l'adapter comme j'en avais envie, et ensuite, une fois que c'était fait, j'ai un peu traîné, oui, des pieds, parce que je savais pas si j'avais envie de jouer seule, mais tout d'un coup, j'aime transmettre ce genre d'émotions, passer du rire à des choses parfois un petit peu plus graves, parce que c'est la vraie vie. Et voilà, il me manque effectivement un partenaire, mais je joue tous les autres personnages, je finis par plus être seule en scène.
Alors cette Angela qui vient de se faire plaquer, elle est très franche, très transparente.
Voilà.
Hein.
J'adore ça.
Elle raconte ça, quoi.
Elle se met pas forcément en valeur, hein, quand elle raconte les trucs.
Non, c'est pas. Voilà,
elle raconte, elle les cache. Ah ouais. Elle raconte vraiment comment ça s'est passé et même ses petits calculs, elle les raconte. Et je trouve ça très sympathique et très généreux.
Alors, tous les sentiments y passent, je suppose. La haine de l'ex-mari, hein.
Alors là, à un moment donné, elle est très en colère parce qu'elle essaie de faire un pas vers lui et puis lui comprend pas du tout ce qu'elle était en train de faire.
Est-ce qu'il y a également les discussions financières souvent sordides en cas de divorce?
Ben oui, elle en parle parce qu'elle pensait avoir l'appartement et une grosse somme d'argent tous les mois, mais elle se rend compte que l'argent ne sert qu'à payer les traites de l'appartement.
On retrouve Michel Larocque dans un instant.
Pour cette émission juridique sur le divorce, et ensuite Jérôme Daran et ses répondeurs VIP, Christine Lagarde. Ségolène Royal avant l'ami Cantou aux alentours des 19h30. À tout de suite.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Et Michel Larocque, pour mon brillantissime divorce à partir du 22 septembre au Théâtre du Palais Royal, c'est vous qui faites la mise en scène.
Oui, enfin, mise en scène, c'est un grand mot. En tout cas, j'avais envie de raconter tout ce récit à ma manière, donc j'ai pas eu envie d'avoir un filtre entre moi et le public.
Dites-moi, Angela, je crois savoir que dans la pièce, je vais venir vous voir, mais je connais bien le sujet, vous prenez pas parti, hein, parce que il avait aussi peut-être des raisons de se barrer sur monsieur
qu'elle faisait
crâneron.
Plus. Oui, exact, crâneron, ouais. Ouais, parce qu'il a la forme de son crâne est très ronde. D'ailleurs, elle commence comme ça en disant qu'elle pouvait plus supporter pas mal de choses chez lui, la forme de son crâne par exemple.
C'est difficile de changer en route. Hein.
Ben oui, là, rond, très rond, on ne peut pas devenir ovale d'un coup.
Oui, c'est pas manichéen, c'est
non, pas. Oui, non, il y a pas.
Tout blanc,
pas
tout noir.
Exactement.
Mais c'est le cas dans tous les divorces.
Mais c'est bien sûr, bien sûr.
Dites-nous, Michel Larocque, puisque l'une des obsessions de cette pièce, c'est l'homme. Et il y en a un que vous avez consulté, j'imagine, c'est Pierre Palmade. C'était une caution, un aval ou simplement
j'avais besoin
un conseil
d'avoir son
amical.
Avis. Oui, ouais. Oui. J'ai fait une lecture à la maison à Pierre et il était très inquiet parce que il se demandait ce que je pouvais faire toute seule sur scène après Florence, Foresti, Muriel Robin, Valérie Lemercier. Donc il était vraiment inquiet, mais il me l'avait pas dit d'une manière élégante. Et donc j'ai lu mon truc et tout ça. Et il m'a dit oh là là, je suis soulagée, ça va, c'est génial. Il me dit mais écoute, je suis autant content pour toi que pour le public. Donc j'étais contente d'avoir cet aval là.
Et c'est un sujet que vous connaissez bien tous les deux, car il y a quelques années dans Ils se sont aimés, vous l'évoquez durant quasiment toute la pièce. Écoutez.
Absolument.
J'en ai marre.
Et moi aussi j'en ai marre.
J'en peux plus de cette vie.
Moi non plus, j'en peux plus de cette vie.
Je suis pas heureuse.
Moi non plus, je suis pas heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Je vais te le dire ce qu'on fait. On dit.
Ah ben dis-le ce qu'on dit.
Non. On dit.
Quoi on dit? Pourquoi tu me parles d'endive?
Oh, écoute, je te parle pas d'endive, je te dis qu'on dit beau. Hein? On dit
vaut.
On dit bas.
Oui, bah vaut, on divorce. On divorce.
Tu oses me demander le divorce?
Quand je te demande le divorce, dis donc, tu me l'as un petit peu soufflé, non? Toi, tu connais beaucoup de mots qui commencent par divorce?
On divorce.
On divorce.
On divorce.
On divorce.
On divorce.
La mauvaise foi.
Qu'est-ce qui vous a touché dans ce personnage? C'est la pudeur souvent de cette femme, surtout oui. Quand elle explique sa solitude.
Mais je trouve que c'est un être humain à part entière, avec ses lumières, ses ombres. Je trouve que on a envie de savoir ce qu'elle ressent, qu'elle partage tout, qu'elle est généreuse, qu'elle est franche. C'est ça qui me plaît chez elle.
Allez, c'est l'heure d'une première séquence et d'un personnage qu'on vous présente ce soir, Michel. C'est Jérôme Daran.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous connaissez Jérôme, hein, qui était le complice de tous les sketchs, de beaucoup de sketchs passés dans les émissions de Laurent Ruquier avec Florence Foresti, et il a eu l'idée de, il nous a dit voilà, il est venu nous voir à la rentrée, en disant écoutez, je suis le seul en France
en pleurant.
Il a dit, je suis le seul en France à pouvoir pirater les répondeurs des stars, et il nous a fait une démonstration qui était implacable.
On l'appelle l'infiltré.
Bonsoir Michel, bonsoir Michel, bonsoir Cindy Boulard.
Bonsoir.
Alors, Jérôme Michel Larocque, je suis allé jeter un œil sur votre site internet. Alors, vous avez l'intelligence de préciser sur la page d'accueil qu'il est en construction. Ah.
C'est vrai.
Non, c'est vrai.
Je confirme.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout pas le cas de Ségolène Royal qui hier a lancé son site, hein, vous avez vu, Désir d'avenir.
Oui.
Par exemple, c'est un site, mais c'est un site, on va dire, archéologique, quoi. C'est moche, c'est mal foutu. Enfin, tout le monde s'est bien foutu de sa gueule, on peut le dire quand même.
Vous êtes allé sur le site, vous avez eu du mal.
Ah, j'ai essayé de naviguer, mais en fait, on navigue pas, on sombre direct, quoi. En tout cas, on comprend mieux le côté préhistorique du site en écoutant les messages du téléphone portable de Ségolène Royal.
Vous avez 3 nouveaux messages.
Allô, tata Ségo, c'est Marion. Dis-moi, j'ai trop de devoirs pour demain. Je vais pas pouvoir finir ton site internet. Je t'embrasse, tata Ségo. Bisous.
Oui, bonjour, c'est Michel, votre chargé de communication. Écoutez, pour donner une touche de modernité et pour rester en phase avec le site internet, on pourrait glisser des petites vignettes à votre effigie dans les sachets de Tang. Vous savez, ceux qui se vendent au Mammouth, là. Et comme ça, ce serait complémentaire avec notre 3615 Ségo. Voilà, et bien écoutez, aussi au jour, je passe un petit coup de bigophone. Oui, c'est encore Michel, votre chargé de communication. Écoutez, je viens d'avoir une idée lumineuse. Pourquoi ne joindrions-nous pas Anne Sinclair pour participer à ce fameux 7 sur 7 ? Hein ? Ce serait une excellente idée. De plus, je me disais que peut-être un passage à la séquence du spectateur nous redonnerait un bon coup de... Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, rappelez-moi.
Merci Jérôme.
Vous avez reconnu l'accent, Michel, c'est un accent quoi ?
Poitou-Charentes.
Franc-comtois. Non, c'est un accent franc-comtois.
Ah,
mais oui.
Vous êtes de Besançon.
Oui, mais bien sûr, je viens de Besac.
Mais oui. C'est un Byzantin.
Une
célébrité à Besançon.
Immense célébrité. Un journaliste, vous avez dit d'ailleurs un jour, mais. Enfin bon, bref.
Moi, je suis allé à Besançon un jour, j'ai mis un livre, on m'a dit est-ce que vous connaissez Jérôme Darran ? Je dis oui, mais vous savez, c'est une sommité ici. Lui et Edwige Feuillère de Vesoul.
C'est ça.
Il y en a une autre sommité au CRIB ce soir, Jérôme.
Alors, on est toujours en période de crise. En période de crise, tout le monde veut lutter contre le gaspillage. Et Madame Lagarde, ministre de l'économie, a appelé à la mobilisation, hein, et elle a reçu une première piste. Hein. Bah, tout de suite, on écoute la messagerie du téléphone portable de Christine. Voilà.
Vous avez un nouveau message.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Faisal, le concierge de l'Élysée. Je suis pas très satisfait du tout, hein. Alors, le peuple français, il n'a plus des économies, et France Télécom, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils jettent les gens par les fenêtres, hein. C'est pas une honte scandaleuse, tout ça? Voilà, il faut remplir les madeleines, c'est ça qui est important. Voilà, bonne journée, bonjour. Au revoir, bon appétit, ça va?
Qu'est-ce que tu dis, il faut remplir les madeleines?
Oui, il faut remplir les madeleines. Parce que France Télécom n'arrête pas de jeter les gens par la fenêtre. Voilà.
J'aime bien le ça va.
Ça va,
ça va.
Vous avez un site.
Oui.
Oui, vous en occupez régulièrement, vous le.
Oui, enfin, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais en revanche, je reçois tous les mails bien, qui sont envoyés à mon site, je les reçois et je réponds.
Ça vous apporte beaucoup de choses. C'est une nouvelle forme de communication avec les gens qui vous aiment. Avant, c'était envoyer une photo dédicacée. Maintenant, on communique directement.
C'est vrai. Et puis, c'est vrai que j'ai suivi, il y a des ados là, que j'ai suivis depuis très longtemps. Parfois, les parents me demandent d'intervenir pour qu'ils travaillent mieux à l'école. Enfin, une espèce de grande famille, ouais.
Et puis, à partir de maintenant, vous allez avoir beaucoup de divorcés qui vont vous envoyer des petits mots.
Exactement.
Michel Larocque, vous parliez de Florence Foresti, de Muriel Robin. C'est encore tabou d'avoir de l'humour en France quand on est une femme. C'est encore difficile d'exister, je veux dire, sur scène en tant qu'humoriste.
Je suis pas humoriste parce que je n'écris pas mes textes et tout ça. Je trouve qu'un humoriste, c'est vraiment quelqu'un qui écrit ses textes, qui fait ses spectacles. Tout ça, c'est pas mon cas. Mais en revanche, je me suis jamais posé la question. Alors là, vraiment.
Jamais eu de difficulté, vous?
Bah, quel genre?
À vous imposer, à être produit.
À m'imposer? Mmh. Ah non, mais j'ai jamais voulu m'imposer. Non, j'ai justement, je ne savais pas si je pouvais apporter quelque chose. J'ai essayé de faire mes spectacles ou après les films. Et puis ça s'est bien passé, mais voilà. Enfin non, j'ai pas.
Non, et puis à la différence des autres spécialistes du One Woman Show, on peut y ajouter Anne Romanoff. Vous faites une carrière au cinéma qui est presque plus importante que votre carrière de, de comédienne de théâtre, si j'ose
oui,
dire.
Oui, c'est vrai, oui.
Vous avez passé plus de temps sur les plateaux de cinéma que sur les plateaux de théâtre.
Oui, oui, j'avais fait du théâtre au départ, beaucoup, puis après, beaucoup plus de cinéma, c'est vrai.
Vous dites quand même quelque chose d'important, que le rire, petite et adolescente, est né d'un complexe, d'une faille, d'une névrose. Vous avez voulu faire rire pour exister aussi, quand même, pour vous imposer d'une certaine manière ou pas?
C'est pas ça, non. C'était un fonctionnement. Moi, j'ai besoin de rire pour parce que c'est très guérisseur le rire, ça fait beaucoup de bien. Donc,
vous étiez malade.
Je pense que j'étais très. Non, c'est pas une malade. Je suis très très sensible. Mmh. Voilà. Donc automatiquement.
C'est une slave.
Encore, mais on revient toujours sur la.
Oui, non, mais on peut pas comprendre le parcours de Michel si on connaît pas sa maman, si on connaît pas d'où elle vient. C'est une slave.
Et donc, je suis très sensible. Je sais peut-être qu'il y a des slaves qui sont pas sensibles, hein, mais en tout cas, le moyen de pouvoir vivre, c'est justement d'avoir le rire, parce que sinon, on sombre.
Hein. Oui, parce qu'on dit souvent que la meilleure façon de séduire les femmes pour les mecs, c'est de les faire rire, mais l'inverse est vrai aussi.
Oui, enfin, moi, de me séduire, moi, avec moi, c'est de me faire rire tout seul. Non, mais c'est vrai, j'ai besoin de m'amuser parce que c'est comme ça que j'arrive à traverser la vie.
Ça va durer très longtemps parce que vous avez l'image d'une comédienne plutôt sexy et je sais que quel est le regard des hommes quand ils vous regardent. Ils regardent pas une dépressive, hein.
Non, mais je sais pas.
Ils regardent quelqu'un bien dans sa peau. Mais je sais que c'est 14 ans. Mais on a tous ça.
Bah oui, c'est la crise d'adolescence.
Michel, saviez-vous que Michel Larocque a été célèbre des bébés quasiment au couffin? Plusieurs articles de journaux vous honoraient comme l'enfant de la liberté. Que vous avez une histoire particulière.
Ma mère s'est échappée de Roumanie pour épouser mon père. Donc quand je suis née, effectivement,
elle était dans les ballets roumains.
Elle était dans les ballets folkloriques roumains et elle était violoniste aussi. Elle était danseuse et violoniste et en tournée, elle s'est échappée.
Elle est arrivée à Nice. Elle est partie.
Voilà, exactement. Enfin, elle est repartie.
Elle est tombée sur votre père.
Elle a rencontré mon père. Ils ont eu un coup de foudre. Elle est repartie parce qu'elle était en fac aussi d'anglais. Donc elle voulait terminer ses études.
Et elle roule les airs comme ça, maman.
Et l'enfant de la liberté, ça vous inspire?
Le premier article, c'était le bébé de la liberté est né cette nuit. Je trouve ça très beau. Ça me plaît d'être le bébé de la liberté. Oui.
Vous l'avez gardé?
L'article? Enfin, ma mère garde tout, ça c'est sûr.
On a retrouvé Michel Larocque dans quelques instants et bientôt Nicolas.
Nicolas et Julie, à tout de suite. C'est l'heure de Nicolas Canteloup avec Julie.
On revient sur la large réélection de José Manuel Barroso. Pour en parler, on reçoit le président de la République carrément.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Alors, tout le monde s'accorde à dire que Barroso a un bilan médiocre à la tête de la communauté européenne et pourtant il a été largement réélu.
Écoutez, madame Julie, vous avez un petit peu vite en besoin. Je ne peux pas vous laisser dire que le président Barroso est médiocre. Ah. José Manuel est un homme tout à fait exceptionnel pour un portugais. Pardon, monsieur Fogiel. C'est une blague raciste de mon ami Brice. J'en ferai plus.
D'accord. Vous êtes sûr qu'il est l'homme de la situation pour la construction européenne, Barroso?
Mais bien sûr. Le problème, c'est que là, nous en sommes encore à la paperasse, si j'ose m'exprimer ainsi.
Oui,
le jour, madame Julie, monsieur Cabron, monsieur Fogiel, où la construction européenne sera vraiment lancée, José Manuel Barroso va nous faire le carrelage en deux jours. Excusez-moi.
Monsieur Sarkozy, on peut savoir qui est cette femme qui porte la burqa, là, à côté de vous?
La dame à la burqa, là?
Bah oui, c'est qui?
Ah, mais c'est pas une femme, c'est Ben Hortefeux.
Oh, mais attendez, mais Ben Hortefeux, mais c'est Brice, quand, son prénom, quand même,
je vous l'ai dit, pendant quelques jours, on met le paquet. Donc là, on est en pleine opération de communication.
Là.
Dis donc, tu poses ce café, ces petits gâteaux, Ben? je te signale que tu fais Ramadan. Et si tu, oui, mais si tu pouvais faire Ramadan, oui, le Ramadan, si tu pouvais faire le Ramadan des déclarations à la con, ça ferait des vacances. Tu dis bonjour à la dame Ben. Salam alaikum la gazelle jolie. Salam alaikum l'imark Olivier. Salam alaikum toute la semaine.
Bon, écoutez, Ben, salam alaikum Ben Hortefeux. Dites-moi, Monsieur Sarkozy, il n'avait pas cet accent la semaine dernière, Ben Hortefeux.
Oui, non, mais je sais, c'est son accent auvergnat. Allez, alois, alois, Ben, alois. On va faire là. On va faire comme la journaliste irakienne. Hein, le journaliste irakien avec Bush, on va balancer nos babouches sur Mathilde Aubry.
Bon, allez, on vous laisse tous les deux, ça suffit. Hein. Et puis, on va évoquer la tragique disparition de l'acteur et chanteur Philippe Nikolic avec un médecin, le docteur Philippe Douste-Blazy. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour à tout votre cabinet. Mm-hmm. En effet, bonjour, Mme Julie. Oui. Ah, Mme Julie.
Quoi?
Alors, cette. Je regarde.
Quoi?
Cette jaunisse du cheveu. Ça va mieux?
Ah non, ça va pas mieux, non.
Ça Monsieur Fougier, attendez, mettez-vous en face de vous, moi, Monsieur Fougier.
Oui.
Ouvrez bien grand les yeux. Voilà, attendez, je compte. 2, 3, 4, 6, 8. 8 cernes. 8 cernes. Et on en est qu'en quatrième semaine.
Oui, ça va s'aggraver alors, dites, ouais. Alors, Philippe Nikolic était apparemment en pleine forme. Il serait mort pendant son sommeil. C'est le deuxième décès après, dans ces conditions, après celui de Michael Jackson.
Tout à fait, en effet. C'est le deuxième décès mortel. Et donc définitif que nous constatons. Nous avons donc décidé de lancer une grande campagne de prévention qui s'appellera Dormir-tu. Parce que ces deux personnes, Michael Jackson et Philippe Nikolic, sont mortes dans leur sommeil.
Oui.
On va faire marquer en gros sur les oreillers à titre préventif les couettes, les matelas, attention, dormir-tu.
Oui.
Dormir nuit gravement à la santé. Donc pour éviter ce type de symptômes désagréables comme la mort, mon conseil c'est donc, vous l'avez compris, éviter de dormir.
Eh ben, il faut faire quoi au juste, monsieur si j'allais dire mister.
En effet. Écoutez, le mieux pour ne pas dormir, c'est éviter les rediffs de Café Crime. Ça fera plaisir à Jacques Pradel.
Celle de la nuit, oh, écoutez.
Je vous conseille plutôt de sortir. Il faut sortir. D'accord. Il y a des tas de solutions. Hein. Il y a le Macumba, le Queen, le VIP, le Pink Paradise, les chandelles, le Star Flash, le Cadolch Club.
Ouais. Mais comment on va tenir sans dormir, monsieur Douste-Blazy?
Mais du café, beaucoup de café, ou encore mieux de la coke. Beaucoup de coke effervescente ou un spray nasal, comme vous voulez. Donc mon conseil santé, c'est éviter de dormir et prenez le maximum de coke.
Quel bon conseil.
En tout cas, la bonne nouvelle, si dormir-tu, vous allez finir centenaire, monsieur Fogiel.
J'ai l'impression. Hein,
comme monsieur El Kabach. Ça lui fera plaisir aussi.
Ah oui, là, il va être content, là. Il écoute. Hein. Autre chose, des précipitations importantes se sont abattues sur le sud de la France ces derniers jours, notamment à Cannes et à Marseille. On va accueillir le maire de la ville. Il est avec nous pour en parler ce matin.
Mais si je suis avec vous, bonjour madame Julie,
bonjour
monsieur Cabarole, et à votre caïd du matin, monsieur Foguiel.
Monsieur le maire.
Le caïd, vous êtes le petit lutin, le caïd, vous êtes tout, hein, Marc-Olivier.
Oui, vous êtes le tout en un. C'est une véritable catastrophe. Revenons à nos moutons.
Oui.
Il s'est abattu sur notre ville. Un cauchemar incroyable. Vous pensez 2-1 pour le Milan AC au stade Vélodrome. C'est un déluge de buts qu'on croyait réservé au petit Saint-Germain.
Non, alors vous parlez de la défaite en Ligue des Champions. Moi, je parlais de...
Madame Julehy, de quoi voulez-vous que nous parlions d'autre ce matin?
Ah bon.
Ce que Madame Julehy, il va falloir aller au match retour maintenant à Milan avec le bon effectif.
Et
aujourd'hui.
Oui, vous voulez emmener tous vos attaquants, hein, c'est ça?
Non, je ne vais pas amener les attaquants.
Quoi?
Je vais emmener une bonne vingtaine de cagoles mineurs de moins de 14 ans habillés au ras du bonbon.
Oh non,
écoutez, monsieur Foguillet, c'est notre seul espoir de persuader Silvio Berlusconi, le propriétaire du Milan AC, de nous laisser une chance de gagner.
Monsieur Godin, il s'étonne, ah ben bravo. Allez, autre chose, l'acteur Patrick Swayze, le sublime danseur qui nous a fait rêver dans Dirty Dancing, mais aussi le magnifique surfeur de Point Break, est donc disparu.
Yes.
Mais qui c'est? Mais Sœur Emmanuelle, c'est vous?
Oui, c'est moi, ma petite Julie, montez ma pomme au petit
guide.
Faut dire bonjour à Blackwood, Mathieu, salut la rédaction, c'est pas des seins, mais je les aime bien quand même.
Mais ça veut dire quoi? Cette réaction, vous avez l'air toute joyeuse, là. On parlait de Patrick Swayze, Sœur Emmanuelle.
Mais c'est sûr, ça nous change. Vous avez vu les derniers arrivés? Nous avions Sim, 83 ans.
Oh là là, non.
Willy Renis, 99 ans. Oh. Là, on a du Patrick Swayze. Ah, mais ça va me changer. Bon, je vous laisse parce qu'on a du boulot à cause de France Télécom.
Mais...
Et puis, il y a le petit Toby Free qui débarque. Ah oui, ça me fait trop jeune. Ça me fait beaucoup de trop jeune. Allez, y a là du beau gosse qui arrive.
Du beau gosse qui arrive, arrêtez vraiment.
Time of my life, I never
Oh, elle chante Dirty Dancing. Non, sœur Emmanuelle, ça suffit, on vous laisse. Hein.
Elle chante allez, bien allez. En même
temps. Elle chante drôlement bien, oui. Formule 1, maintenant. Renault reconnaît avoir triché en provoquant le crash volontaire d'une de ses voitures lors du dernier Grand Prix de Singapour. On va écouter le pilote qui était au volant de cette Formule 1. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Alors, on a vu votre voiture percuter un muret. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ah ben, alors là, je sais pas trop. Oh, non, hein, pas moi, on m'a mis un casque sur la tête, bien sûr, sur la tête. Ah, bah, oui, sur la tête, c'est normal que ce soit sur la
oui,
tête
oui, bien
casque.
Sûr, oui, oui.
On m'a mis assis dans un petit siège. Oui. Bon, moi, j'ai cru que c'était une nouvelle émission de Frédéric Lopez, un autre rendez-vous en terre inconnue. Mais pas du tout. La voiture, elle a démarré toute seule et au premier virage, elle est partie en liberté.
Père Montagnier, non, mais c'est pas vrai. Allez, pour terminer, un mot de la baisse de la TVA dans la restauration. Apparemment, elle est loin d'être appliquée partout. Jean-Luc Petit-Renaud va nous en parler.
Et oui, mon petit Laurent, ma petite Julie, mon petit Marco, je suis content d'être avec vous. Vous êtes dans ce petit studio qu'on aime bien. Bien ce matin, je vais vous parler d'une recette qui fait fureur en ce moment. C'est le pigeon à la TVA. Alors, c'est très simple. Hein. Vous prenez un beau pigeon. Oui. Hein, c'est facile, c'est la pleine saison. On en trouve dans tous les restaurants en ce moment. Vous l'engraissez un peu, vous lui donnez bien à manger. Puis au moment de payer, là, vous l'attrapez d'un geste bien ferme et vous le fourrez avec l'addition, vous voyez, hein, bien profond dans le croupion. Hein, vous allez voir, ça lui donne un petit goût délicat au pigeon. Là, et après, vous verrez, ça sera un tel succès, vous n'allez plus faire que ça, le pigeon à la TVA.
Allez, d'accord. Merci Jean-Luc.
La revue de presse de Nicolas Cantelou avec Julie dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Dans la matinale, c'est tous les jours et depuis un mois à 8h45.
Studio Europe 1,
Michel Drucker,
Wendy Bouchard.
Michel Larocque est encore avec nous pendant quelques minutes. Alors, l'actualité du moment, je le rappelle, eh bien, c'est mon brillantissime divorce au théâtre du Palais Royal. Vous avez rôdé ça un petit peu en Belgique,
oui,
en Suisse.
Oui, j'allais jouer à Charleroi. Et puis, la semaine dernière, j'ai joué à Verviers et à Mons. Et,
ça vous a rassuré.
Beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et puis, ça permet vraiment. J'ai coupé des trucs, j'en ai rajouté d'autres. Enfin, je veux dire, ça permet vraiment de progresser, de sentir le texte.
Michel Larocque, on a calculé. Vous avez votre carrière à quasiment 20 ans.
Déjà ?
Mais oui, déjà. Madame fait jeune, mais 20 ans. Théâtre, cinéma. Alors le cinéma, les grands rôles, hein, dans le placard, ouais. Pédale dure, l'anniversaire, la maison du bonheur, enfin, veuve, Isabelle Mergault, le premier rôle. Et en 99, vous signez avec Didier Bourdon le scénario de Doggy Bag. Oui. Didier, on le recevait hier dans la cage aux folles. Vous l'imaginez en travesti à talons ?
Ah oh oui, je l'imagine très bien même.
Il vous donnait déjà cette fantaisie quand vous avez...
Mais Didier est extraordinaire. Moi, j'ai connu Les Inconnus quand je suis arrivée à Paris. Et on a fait d'ailleurs tourner Ménage.
Absolument, c'est
hein,
vrai.
La parodie de Tourner Manège ensemble. Et c'est un génie, Didier. Je suis très, très, très cliente de ce qu'il fait. Et je trouve que c'est un immense comédien.
Alors, vous avez croisé à vos débuts dans les années 90, à l'époque de La Classe, déjà Palmade, Muriel, oui. Bigard. Vous gardez un souvenir ému de cette époque.
Ah oui, c'était sympa.
Vous débutiez tous. Hein.
Oh, on a tous débuté. Muriel était quand même un peu en avance. Hein.
Il y avait
Pierre
Théâtre
venait d'arriver.
Qui arrivait déjà.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, moi j'avais fait La Classe parce que j'allais jouer au théâtre avec Claire Nadeau et comme elle était plus connue que moi, je voulais que le public se sente en confiance. Donc du coup, j'avais fait ça comme ça, mais je m'étais beaucoup amusée, même si c'est une école vraiment difficile de faire rire comme ça. Tout d'un coup, on voit son nom, là, quelqu'un de la production qui monte le nom et puis faut foncer.
C'était pas évident. C'est une bonne école. Hein.
Non, c'était une bonne école. C'était bien.
J'ai évoqué un épisode assez dramatique de votre vie. En 1979, vous avez un accident de voiture très grave.
Oui.
Vous êtes en convalescence pendant 2 ans.
Oui.
Comme quelqu'un qui se réveille d'un coma, vous vous dites maintenant c'est fini les bêtises. Vraiment, je fonce.
C'était pas du tout ça. C'est que je me suis entendu dire j'ai eu une petite inconscience. C'était pas un vrai gros coma, mais de quelques heures. Et je me suis réveillée en disant c'est incroyable. J'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne. Oui. Mais je ne me suis entendu dire ça. Je ne sais, tout le monde a dit, elle a pris un gros coup sur la tête.
Ça a été un déclic.
C'était le cas.
Cela dit,
hein.
Ça a été un déclic.
En tout cas, 2 ans plus tard, ma mère avait entendu ça parce que c'est une artiste. Donc, 2 ans plus tard, elle a trouvé Julien Berthaud qui donnait des cours au conservatoire d'Antibes. Et voilà, je suis allée à ce cours-là et puis j'ai plus jamais voulu partir.
On retrouve Michel dans un instant.
Michel Larocque, Michel Drucker également. Le coup de cœur des stars, Laurent Deutsch ce soir. Et puis, une star de la chanson québécoise. Francophone nous rejoint, c'est Rock Voisine qui reprend les standards américains dans Americana 2. À tout de suite.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Et nous accueillons maintenant, aux côtés de Michel pendant quelques instants, Rob Voisine.
Et son fan club parisien.
Avec un nouvel album.
Americana 2. Americana 2, voilà, qui est la suite d'Americana 1, où vous reprenez les grands standards de la musique country, une musique que vous avez chevillée au cœur depuis bien longtemps.
Depuis que je suis tout jeune. Ouais. Depuis que je suis tout jeune, c'est probablement la musique, quelque part, quand j'étais tout jeune, comme ça, qui m'a motivé à apprendre à jouer, par exemple, de la guitare au lieu de jouer du piano. Remarquez que c'est plus pratique, la guitare, que le piano, parce qu'on peut se promener avec. Hein? Et puis, c'est un peu embêtant d'amener le piano autour du feu de camp. Mm-hmm. Mais oui, je fais présentement un retour dans le passé qui est très intéressant à travers cette musique-là. Ça me rassure un peu quelque part. Puis je voulais faire autre chose. Je voulais arriver avec quelque chose arriver quelque part où les gens m'attendaient pas vraiment.
Grande tournée qui se prépare en France et puis l'Olympia bientôt. Vous aimez la musique country?
Ah oui, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien.
Vous c'est aimez très, ça? Écoutez ça.
C'est pour ça, par contre, c'est pas moi qui chante.
Timmy Wynette.
Oui.
On écoute encore, c'est un standard. Ça.
Ah.
Something warm to come to when nights are cold and lonely.
Stand by your man. On écoute un autre?
Ouais,
qu'est-ce qu'on fait?
Lequel?
Alors, allez-y.
Bobby Gentry.
Bobby Gentry.
Was it there? Bobby Gentry. Another sleepy, dusty
Delta day. D'ça, on a fait Marie-Jeanne.
I was out chopping cotton and my brother was baling hay.
Pas mal ça. Ouais, ah, moi, il y a une femme que j'adore. Quand je l'ai rencontrée la première fois, elle avait une choucroute blanche sur la tête qui lui allait ravir. Elle avait d'ailleurs une silhouette qui passait par la place. Dolly Parton.
Je crois qu'elle l'a toujours.
Ouais, elle est géniale, Dolly Parton.
Écoutez, I will always love you.
But I know. Each step of the way, and I will always love you. I will always love you.
Whitney Houston en a fait un film mondial.
Ouais, ouais.
On a encore le temps d'écouter quelque chose, et on écoute ça aussi.
Ça, c'est plus lourd.
Ça cartonne en ce moment aux États-Unis.
Tube en ce moment en Amérique. American Saturday Night. Brian Paisley, l'album vient de sortir. C'est tout ce que vous aimez, ça. Hein?
Ah oui, c'est un beau souvenir.
Alors, vous allez peut-être populariser la musique country en France. On est heureux de vous accueillir. On peut espérer un revival comme ça de cette musique chez nous.
Écoutez, je pense que vous, déjà dans les années 70, vous étiez fan de musique country adaptée et vous le saviez pas. À travers
Hugo Frey,
à travers Joe Dassin, à travers Eddie Mitchell et tout. Ils ont fait des tubes énormes ici.
Ils sont allés enregistrer d'abord dans les studios mythiques.
La plupart de ces chansons-là à l'époque avaient été enregistrées là-bas en plus. Donc vous, ça fait déjà partie de votre conscience musicale, votre paysage musical d'antan. Donc moi, j'arrive avec des chansons que vous connaissez déjà, sauf que moi, je les fais la plupart, en tout cas en version originale. Donc j'espère bien que ça va, je sais pas, réveiller quelque chose qu'il y avait dans les années 70. Ça me ferait énormément plaisir.
Vous avez tous les deux un point commun, au moins c'est que les États-Unis vous connaissez, et Los Angeles en particulier. Michel, c'est une seconde patrie?
Oui, c'est vrai, oui. J'y suis très 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 souvent, et ça me fait du bien d'alterner.
C'est un équilibre?
Exactement, oui, c'est un pays neuf et nous on est un pays vieux, donc voilà.
Et puis on vous reconnaît
moins.
Et
les avantages aussi, oui.
Vous savez, vous parliez de l'adolescence de Michel Larocque, elle a grandi à Nice, et vous savez qu'elle se destinait à une carrière, une bonne carrière de joueuse de tennis. elle a fait partie de cette génération qui a vu naître Noah, entre
autres. Il est arrivé à Nice à 12 ans.
Ouais, dans un club fort célèbre.
Au LTC, Nice, ouais. Au LTC à Nice. Ils ont tous fêté Nice études là-bas. Il y avait Moreton, Bedel. Enfin, c'était,
ben moi, puisque
c'était
vous
une belle équipe.
Roumaine d'origine, mon idole, c'était Elina Stas.
Ah, ben, Stas, c'était le numéro
1. Et Yon Tiriac.
Ils faisaient des doubles extraordinaires. Ouais, alors, il montrait à ma mère qu'il fallait me boucher les oreilles, parce que moi, je connais tous les gros mots roumains. Ah. Et, et sur un terrain, ils y allaient, hein, Tiriac et Nastas.
Et quand t'as quand je l'ai connu, il avait déjà une énorme célébrité dans son pays, mais il voulait devenir joueur de hockey. C'était un très bon joueur de hockey, puis il a été trahi par un genou.
Entre autres, ouais. Hein? Trahi aussi par une sélection qui est très difficile chez nous. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de hockey sur glace et il y a très peu d'élus. Donc, j'avais opté à l'époque, remarquez que j'en fais toujours du hockey sur glace. J'en fais parfois jusqu'à 3 fois la semaine.
Mais, ah oui?
Oui, toujours. Ouais, c'est une passion de petit garçon qui est resté,
À Montréal?
À Montréal, ouais. J'en ai fait ici aussi.
On en a fait ensemble.
Oui, c'est vrai.
Avec Jacqueline Maillan.
Oui, c'est vrai.
Oui, on a déguisé Jacqueline Maillan en hockeyeuse. Moi, j'étais dans les buts ou toi, t'étais dans les buts.
Ouais, je pense qu'elle était dans les buts.
C'est une séquence qui est restée mythique, ça.
C'était drôle, ça.
J'ai dit Montréal parce qu'il y a une rivalité entre les équipes de Québec et de Montréal qui était la même que Marseille et Paris Saint-Germain.
Hein. Oui, absolument. Bon, il n'y a plus d'équipe à Québec. L'équipe a été rachetée aux États-Unis. Mais il parle de ramener une équipe professionnelle de hockey sur glace dans la ville de Québec. Un peu, et se sert un peu de cette... c'est la guerre, c'est une guerre ouverte.
Michel Roch, selon Nancy qui nous a aidé à préparer cette émission, il y a 99% de chances que vous soyez croisés sur un concert des Enfoirés.
Ah bah on a chanté super ensemble. Souvent ensemble.
Elle avait raison.
Michel Roch, tous les deux. On est Mimati ou Muriel Robin sont les âmes des Enfoirés. Hein.
Et vous avez chanté tous les deux.
Bien sûr, souvent.
Souvent, même, ouais.
Elle a une belle voix, Michel.
Oui, absolument.
Elle aime chanter, Michel.
Elle aime chanter.
Alors, on va la laisser partir parce que elle a d'autres émissions à visiter parce qu'elle est en pleine promo. Hein, elle commence le 22 septembre au Palais Royal, mon brillantissime divorce. Alors, vous avez joué dans l'adaptation de la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, qui va sortir en décembre.
Un film, oui.
Moi, j'avais vu avec Daniel Dario et Annie
Dupéret. Là, il a adapté le rôle de la Dame Rose pour le cinéma et pour moi, et j'ai eu énormément de chance. Et j'ai vu le film et c'est sublime.
Et vous allez, en 2010, être l'interprète du premier film que va réaliser Kad Merad, sur un scénario écrit par Madame Merad, Emmanuel Cosso-Merad, c'est ça ?
Absolument, et qui est très réussi, et je suis ravie de le faire, parce que j'aime beaucoup Kad et...
Vous allez jouer mon brillantissime divorce jusqu'à quand?
Oh, je pense que je vais arrêter pour le film, puis je vais le reprendre et après je vais partir en tournée. Ça va être une longue aventure.
On vous remercie beaucoup, Michel.
Oh, merci.
Michel Larocque, au théâtre. Merci beaucoup.
C'est l'heure du coup de cœur des stars.
Studio Europe 1. Coup de cœur de star.
19h50 et comme chaque soir, des grands noms des arts, du spectacle, de la politique nous livrent leur coup de foudre pour un livre, un CD, une musique. Et ce soir, c'est Laurent Deutsch.
Mon premier coup de cœur qui m'a accompagné cet été, c'est un livre de Pierre Péan qui s'appelle Une blessure française, que j'ai adoré parce qu'il propose une nouvelle lecture des guerres de Vendée et de la chouannerie. Qu'on comprend un peu mieux dans le contexte actuel. Il nous montre à quel point la chouannerie, c'est pas ce qu'on croyait, mais c'est plutôt vraiment une opposition entre des petits ruraux et les gros bourgeois qui ont pris le pouvoir avec la Révolution. Donc c'était vraiment palpitant, très intéressant et très instructif. Et mon deuxième coup de cœur, c'est une musique qui m'a accompagné tout l'été, une musique baroque de Vincent Dumès, et qui, avec son groupe Le Poème Harmonique, me fait vraiment voyager dans le grand siècle avec jubilation à chaque coup. C'est un délice, quoi. Ça rappelle les films comme Tous les matins du monde et les grandes musiques aussi, les orchestrations de Molière, de Lully et tout ça, c'est sublime. Alors mon troisième coup de cœur, plus qu'un événement culturel, ça a été la performance de l'hydroptère. Ce record, pour moi, les marins sont vraiment les derniers héros des temps modernes qui vivent sans assurance vie et qui prennent des risques parfois inconsidérés, mais qui, grâce à ces risques, font avancer les choses. Et ce marin-là qui a fait voler son bateau à plus de 100 km/h, ça m'a bouleversé, une émotion comme à l'époque des grandes découvertes, quoi. C'est vraiment grâce à des savants fous comme ça qu'on peut avancer les choses et vraiment, il m'a fait vibrer, il m'a fait battre le cœur. On en a peu parlé, et ben alors voilà, c'est l'occasion d'en reparler un petit peu sur Europe 1. Il a vraiment un bateau qui vole, quoi. C'est génial. On est dans la poésie, on est dans l'aventure, on est au temps de Copernic et Galilée, là.
Voilà, c'était le coup de cœur de Star.
Le coup de cœur de Laurent Deutsch. Nous gardons avec nous jusqu'à 20h30 Rock Voisine. Alors cet album Americana 2 qui vient de sortir, il y a 11 nouvelles reprises, un inédit. Alors c'est des grands standards, ça.
Ah oui, c'est la suite logique du premier. La raison, c'est que je vais partir en tournée. J'ai déjà triché un peu, hein. J'en ai déjà fait quelques dates au mois de mai, au mois de juin, un peu au mois de juillet ici. Mais et je voulais présenter un concept complet, donc ne pas faire autre chose que des titres d'Americana. Donc le deuxième arrive à point.
Il y a une touche personnelle et votre francophonie, le pont entre la culture américaine et française, vous le faites et vous nous offrez d'ailleurs 5 inédits bilingues en français et en anglais. La touche personnelle, c'est quoi en plus?
Ben, je pense que déjà de s'attaquer à des grands classiques comme ça, si on essaie, il faut pas tomber dans le piège de la mimique, de l'imitation, parce qu'on chante ces chansons-là pendant toute sa vie, et puis finalement, c'est dangereux de tomber dans la façon de chanter des artistes originaux. Donc déjà, il faut essayer de les personnaliser. Mais il y avait un piège là-dedans quand on a monté les deux albums, c'est qu'il fallait pas non plus trop les changer, parce qu'il fallait que les gens reconnaissent les chansons. Donc c'était un peu marcher sur les œufs. Pendant deux albums, mais les résultats sont quand même pas
mal. On va avoir un aperçu du single qui est un standard qu'on connaît bien en France.
Écoutez.
If you love somebody enough. Et Eddie Mitchell avait popularisé cette chanson, qui est une chanson anglaise. Mais la langue anglaise, c'est ta première langue, non?
Presque.
Ta deuxième langue.
Ouais, moi, je suis né presque bilingue finalement. Je viens du Nouveau-Brunswick, comme tout le monde le sait déjà.
Bien sûr.
Et qu'on parle français et anglais en très bas âge. Donc,
c'est un endroit où on croise une voiture tous les 200 km.
Non. Quand même pas.
En plus, vos parents étaient profs d'anglais.
Ça dépend où. Remarque, je suis allé en vacances cet été.
C'est immense, ce Nouveau-Brunswick.
Je suis allé en vacances cet été. J'ai pris une petite route qui coupait en beau milieu du Nouveau-Brunswick pour gagner un peu de temps. Et on rencontre pas beaucoup de voitures. Plus de rignots et de chevreuils.
Puis on entend rarement de la pub dans le Nouveau-Brunswick.
Mais oui, sur Europe 1, il y en a de la pub. On trouve Michel Drucker, Rock Voisine, avec un medley, évidemment, à venir de cette Americana 2. À la suite, on vous réserve des surprises avant les infos, 20h, présentées par Jean-Michel Duez. À tout de suite.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Avec Rock Voisine qui revient avec Americana 2, qui est la suite du 1. On va écouter un petit medley tout à l'heure. Rock Voisine est un fou de sport, donc Alexandre Delperrier est en terrain connu. Alexandre Delperrier, c'est Monsieur Sport avec avec Monsieur Ruiz. Tous les soirs à 20h30, il y a l'actualité sportive. Je sais que tu as toujours été un fou de sport. Est-ce que le football européen a pris un peu en Amérique du Nord? Oui, hein.
Ça prend de plus en plus. On a un club à Montréal qui fait pas si mal finalement depuis quelques années, qui a été pris très sérieusement par une équipe de businessmen montréalais, parce que ça prend aussi ça. Et ils sont très forts en marketing, donc ça prend de plus en plus chez nous.
Alors Alexandre, quel est le menu pour ce soir?
Eh ben, on va faire une sorte de bilan déjà de la Ligue des Champions. On va bien sûr parler de Lyon qui, vous le disiez Michel, s'en sort bien. Et on est, je dois avouer, assez ravi pour Jean-Michel Aulas qui a été très critiqué, notamment au moment du mercato. Et oui, il dépense son argent n'importe comment. Ben, le résultat est là. Et le buteur lyonnais Miralem Pjanic sera avec nous dans Europe 1 Foot. Le buteur bordelais également, Jaroslav Plazil, a choisi Europe 1 Foot. Et pour bien évaluer la valeur de Bordeaux, qui est toujours invaincu depuis le 7 mars dernier, même la Juve n'y est pas encore parvenue. Et bien le directeur,
ils ont fait la meilleure opération de la soirée.
Absolument, le directeur général de la Juve, Jean-Claude Blanc, lui aussi sera en direct dans Europe 1 Foot. On parlera beaucoup de Marseille. Vous entendrez Didier Deschamps, qui visiblement est très déçu. Il a pris un coup derrière la tête. Et puis un garçon peut être heureux, c'est Jérôme Roten, qui a fait son premier match de Ligue des Champions avec les Glasgow Rangers. Passe décisive, ils reviennent avec un petit 1 partout de Stuttgart. Jérôme Roten sera en direct avec nous de 20h30 à 22h30.
Merci cher Alexandre. On a encore quelques secondes, Wendy, pour parler de sport avec avec Franck Voisine. Est-ce qu'il y a des joueurs français connus en Amérique du Nord? Zidane est connu, bien sûr.
Oui, mais il est venu il n'y a pas très longtemps. En plus, il est venu il y a un mois ou deux. Il est venu jouer
à Montréal
un match d'exhibition. Et je peux vous jurer que ça a attiré beaucoup,
l'exhibition
beaucoup, beaucoup de
monde. L'exhibition
était... Je disais tout à l'heure qu'ils sont très forts en marketing. Donc, c'était quand même extraordinaire.
Hein. Alexandre, il n'y a pas de Québécois professionnels qui jouent au foot en France?
Non, rien qui me... Non, mais par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a Beckham,
bien
y a
sûr.
Des choses comme ça.
Eh bien, il est 20h.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Franck Voisine est avec nous jusqu'à 20h30. Son actualité, c'est un album Americana 2, hein, qui est la suite Americana 1, qui avait déjà eu beaucoup de succès, et à la veille d'une grande tournée. Ça commencera à l'Olympia le 31 octobre. Et ensuite, Rock va visiter...
Il y a 30 aussi.
30, oui, 30.
Il y a
30
aussi. Ah, il y a des connaisseurs dans le public.
Ah bah, il y a le fan club qui suit depuis 15 ans. 30 et 31 voilà. Dans une longue tournée, mais vous avez déjà tourné chez nous. Hein.
Ah oui, non. C'est,
la première tournée, c'est il y a 15 ans, non?
La première tournée, c'est il y a presque 20 ans.
Presque 20. Le sommaire, Wendy.
Oui, des rendez-vous et de l'humour pour cette dernière partie d'émission. On va vous donner envie de lire tout de suite avec Pierre de Villeneuve qui nous présente le roman autobiographique de Justine Lévy, Mauvaise fille. Elle accouche alors que sa maman va mourir. C'est très émouvant, c'est très beau. Et puis Raphaël Mesrahi arrive avec dans sa besace les témoignages de petits-enfants, Zélie et Lou, génération rock voisine, pas si sûre. Vous voulez assister à cette émission, vous appelez le 3921.
Studio Europe 1.
Wendy Bouchard, Michel Drucker.
Rock, je vous présente Pierre de Villeneuve.
Bonsoir.
Qui est le spécialiste des livres et qui va nous parler de ce soir d'un livre qui s'appelle Mauvaise fille de Justine Lévy chez Stock, qui vous a beaucoup impressionné. Vous n'êtes pas encore remis apparemment.
Non, je suis encore tout émoustillé et plutôt ému. Parce que ce qu'on peut dire de ce livre, c'est que une fois de plus, Justine Lévy s'incarne elle-même. C'est-à-dire que on pourrait presque dire que c'est plus un récit qu'un roman. Mais on a l'habitude avec elle, puisque souvenez-vous, Le Rendez-vous en 95, ton premier livre était déjà un choc à 14 ans, où elle racontait ses rapports difficiles avec sa mère. Et puis ensuite, le fameux Rien de grave, qui est allé jusqu'aux États-Unis, qui a été traduit à New York, racontait sa rupture avec Raphaël Antoven. Là, à nouveau, c'est elle. Il s'agit de deux destins croisés. C'est-à-dire que d'une part, sa fille est sur le point de naître, et sa mère est en train de mourir. Justine Lévy, c'est sa particularité, elle écrit dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'elle écrit désordonnée, ça veut dire qu'elle écrit éparpillée. Comme ses sentiments, comme ses angoisses, comme ses névroses qui arrivent pêle-mêle sur le papier, c'est ça qui est beau. Et c'est une course sans fin, il faut quand même se mettre dans la peau de Justine Lévy une seconde, vers la mort qu'elle essaye à tout prix d'empêcher, la mort de sa mère. Mmh. Et puis cette même course joyeuse tout d'un coup, vivante et à la fois incrédule, c'est ça qui est extrêmement touchant de cet accouchement, de cette maternité qui va venir. Moi je veux dire quand même à tous les détracteurs de Justine Lévy que non, elle n'écrit pas avec des moufles, que non, elle n'écrit pas
parce qu'on dit ça.
Sans se relire. C'est quand même une éditrice dans une grande maison d'édition.
Oui, et puis ces détracteurs, de temps en temps, aiment bien rappeler qu'elle est la fille de BHL.
Et que c'est plus facile.
Et que c'est plus facile, mais c'est déjà fait un prénom.
Moi, ce que je veux dire, oui, certainement. Et moi, ce que je veux dire, c'est que son style de narration est un style à part entière. Souvenez-vous quand même d'Olivia Adam, qui il y a quelques années au Goncourt avait été démoli par François Nourricier. Tout simplement parce que François Nourricier est d'une autre époque, qu'il est de l'époque de Michel Butor, du nouveau roman, mais qu'il détestait cette nouvelle manière d'intégrer l'oralité. Et moi, je trouve que Justine Lévy a un style éparpillé, c'est vrai, mais c'est un style très beau.
Il apparaît, le père, dans le livre ?
Il apparaît d'une manière très très bienveillante, c'est-à-dire que on voit toujours BHL, là encore ses détracteurs le montrent comme quelqu'un d'extrêmement péremptoire. Moi je vois Bernard-Henri Lévy qui est là quand il s'agit d'appeler le meilleur médecin pour sauver la mère. Il est là quand il s'agit de régler des loyers impayés, de donner de l'argent à Isabelle d'Outreluine qui était donc cette première femme de Bernard-Henri Lévy et qui, on le sait, s'entourait de branquignoles, de gens un peu détraqués qui vivaient dans des squats, qui étaient à moitié artistes. Il savait, il payait, il était là. Et c'est ça aussi le livre, c'est le portrait croisé d'une mère un peu fantasque, un peu folle.
Une mauvaise fille, vraiment, c'est elle la mauvaise
fille? Une mauvaise fille. Et puis, oui, une mauvaise fille, mais à double titre, Wendy, parce que mauvaise fille, d'une part, on sait que sa mère est en train de mourir, Et Justine Lévy fait donc un flashback comme on le ferait tous dans sa tête, c'est-à-dire tous ces moments oubliés, tous ces moments où elle n'a pas été là, où elle n'a pas été patiente, où elle n'a pas été présente, où elle a été colérique. Elle refait un parcours de rattrapage. Elle accompagne sa mère chez le meilleur médecin. Elle démolit son bureau parce que on sent bien qu'il est plus préoccupé par le gala qu'il y a après. Elle est toujours là pour elle. C'est ça qui est magnifique.
Je vous remercie, Pierre de Villeneau. Eh bien, on va se précipiter sur ce livre que j'ai sur ma table de nuit chez Stock. Et je vais le lire ce week-end, m'avait donné envie de le lire.
Mauvaise fille de Justine
Lévy. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Rock voisine, vous avez des enfants, des petits garçons.
Deux garçons.
C'est
3 ans et demi, 5 ans.
C'est la 7e merveille du monde, les 7e merveilles du monde.
Quel papa vous êtes?
La 7e et
8e. Quel papa êtes-vous?
Bon, on paraît que je suis un peu trop gâteau, mais c'est difficile parce que je passe beaucoup de temps à l'étranger. Donc, quand je rentre, je me gâte.
Parlez-moi, quel souvenir d'enfance vous gardez dans votre nouveau Brunswick, si loin de chez nous, dans une nature tellement éloignée de la nôtre?
Oui, c'est vrai que c'était une bonne vie tranquille, surtout. J'ai bougé beaucoup, moi, parce que mes parents sont séparés, divorcés. J'étais très jeune, donc j'ai fait plusieurs maisons. J'ai habité chez mes grands-parents, chez ma tante, chez un peu partout. C'était très instable, mais c'était quand même une vie tranquille. Plus tranquille que maintenant, ça c'est sûr.
Et je pense que vous n'imaginiez pas à l'époque faire la carrière que vous avez faite, et surtout devenir le. On a un peu caricaturé le chanteur à minette en France ici, mais un chanteur qui est en 89.
Ça fait 20 ans, mais voilà. Il faut rattraper le temps un peu. Ouais. Ils ont tous des enfants, elle aussi, et même avec un projet comme on vient de présenter depuis un an et demi, il y a quand même pas mal de mecs qui aiment ce que je fais.
Ça vous tient à cœur ça aussi de changer un peu l'image?
Ben changer d'image. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une carrière ici, d'avoir une carrière au Canada. J'ai une carrière qui est quand même assez différente au Canada. Ouais. J'ai animé de grandes émissions de télé, des grands galas.
Moi, je vous ai vu dans un feuilleton très célèbre qui s'appelait Lance et Compte.
Ouais,
Lance et Compte, c'est une expression du Canada.
Voilà, donc j'ai eu une vie finalement artistique équilibrée à cause de ça. Donc c'est bien qu'après 20 ans, on rattrape un peu le temps et le coup ici.
Pour les plaisirs des auditeurs, pour le nôtre, Michel, on réécoute un petit medley d'Americana 2. Ça va de Chuck Berry à... Vous allez deviner.
Neil Diamond, Bobby Darin, Brenda Lee, écoutez.
And you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made? Following behind me, you tell me mistakes are part of being young, but that don't right the wrong that's been done. Like love while you still can, don't even try. Just find a place to make your stand. Take it easy. Deep down Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood. Lived a country boy named
Americana 2.
que des tubes qui ont été chantés par Johnny. Johnny, If I Were a Carpenter, si j'étais un charpentier, c'était un énorme succès.
On peut dire en français, si j'étais un carpenter.
Oui, et puis il y avait Johnny B. Good, Chuck Berry, il a chanté ça, Johnny. Mm-hmm. Et puis Neil Diamond, ça, sont des tubes inoubliables.
Ouais, ça a été beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai fait ça à Nashville, en plus, avec des musiciens hors pair.
Dans le temple.
Ouais, dans le temple. C'est important pour moi. J'avais ce souci de faire l'album, mais vraiment de le faire avec une authenticité dans le son, parce que ça commence là. On a beau à parler de marketing, d'image et tout, mais ça commence, la musique, ça commence par les oreilles. Hein. Donc, c'est important pour moi d'aller là-bas. Je regrette pas. Du fun, comme on dit chez nous, mais beaucoup de fun.
Il y a un grand artiste en France qui voulait reprendre les mêmes chansons, puis quand il a entendu, il a
Michel Drucker.
C'était Raphaël Misraël.
Ah, vous voyez, les grands esprits se rencontrent.
Raphaël, il voulait reprendre Bobby Darin. Ils connaissent tout ça, c'est son répertoire.
Je prends Willie Nelson aussi.
Ah oui, mais il y en a aussi. J'en ai sur les deux albums, là, pas de problème.
On se retrouve dans un instant.
Vous a donné l'eau à la bouche avec Raphaël Misraël et Rock Voisine juste après la pause. Et Michel Drucker, à tout de suite.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Suivez le rythme. Hein, parce que...
Alors, le générique de Raphaël Misraël est enregistré à Nashville. Il est arrivé à Nashville, c'est dans le studio Nashville-Charenton.
Alors, internet aujourd'hui, c'est un coup de téléphone, ça.
Tu connais Raphaël, puisque par TV5, toutes ces interviews inoubliables sont passées en Amérique du Nord, francophone, au Québec.
Tu as vu quel mal il a fait aux artistes.
Et il a eu l'idée de demander à des gens qui ne sont pas des gens célèbres, il y a une mamie de 85 ans, il a deux garçons, deux jeunes ce soir, de parler de l'actualité et de l'inviter.
Ces deux jeunes sœurs, Lou et Zélie. Et Zélie, qui sont à l'école Louvois, une qui est en CE2, l'autre qui est au CM2, puis là, elles vont me dire Rock Voisine. Ah ouais, non, je veux parler de Rock Voisine. Absolument, donc elles voulaient parler de Rock Voisine. Donc voilà ce que ça donne. Tu connais Rock Voisine?
Et je comprends pas pourquoi il s'appelle Rock Voisine, moi.
Je t'explique, parce qu'en fait, il s'appelle Rock. Pas Rock, R-O-C-H, ouais. Son nom de famille, c'est Voisine.
Voisine, ah, il a un prénom, c'est un mot aussi, et il a un nom de famille, c'est un mot aussi.
Il a deux prénoms, ouais, comme Émile Louis, il a deux prénoms aussi.
Qui?
Émile Louis, il n'y a pas de prénom, il n'y en a pas qui ont deux prénoms, je sais pas si...
Ouais, mon babysitter, il s'appelle Louis-Adrien.
Louis-Adrien, ouais, fais gaffe quand même, hein. Et qu'est-ce que tu connais, toi, de Rock Voisine? Tu trouves qu'il est beau, ce gars-là?
Oui, voilà, il est beau.
Oh, mais il est moche.
Ah, tu trouves qu'il est moche, toi?
Oui, très.
On avait plus beau dans la classe de Lou, comme Mathieu.
Mathieu, il est plus beau que Rock Voisine?
Ah, c'est sûr.
C'est vrai?
Non, mais c'est sûr. Je connais surtout Jodassin, moi.
Ouais, tu voudrais plus parler de Jodassin?
Oui. Jodassin, il a chanté les Champs-Élysées. Je peux vous le chanter si vous voulez.
Oui.
Oh, Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées.
Ben voilà, donc oui. C'était un bon résumé de toute la carrière de Rock Voisine.
Oui.
On peut dire ça.
Je pense qu'il était un fan de Jodassin quand il était petit.
Bah ouais, parce que sans Jodassin, à mon avis, il aurait peut-être pas fait carrière, ce gars-là. Hein?
Bah il aurait peut-être pas chanté.
On va peut-être pas chanter. Ok, bon, alors merci les filles.
D'accord, au revoir.
Après. Bah bientôt alors. Et vive.
Yo.
Et vive.
Rock Voisine.
Rock Voisine.
Ouais. Et Jodassin. Yo.
Cela dit, elles sont pas tombées très loin parce que. Il a également chanté rock des chansons de Dassin. On va en écouter une tout à l'heure qui était dans le premier Americana 1.
Ouais.
Alors, c'est une bonne question. Rock Voisine. D'où vient ce nom?
Je sais pas. je ne suis pas responsable.
Non.
Mon nom était tellement bizarre quand je suis arrivé. Finalement, j'ai commencé ce métier que.
Ah, c'est drôle.
Que on a dit on change rien.
Il y a beaucoup de rock.
Il y en
Canada.
A quelques-uns quand même. Bon, il y a Saint-Rock quelque part.
Et pourquoi Voisine?
Jean Rock ici.
Oui, il y a Jean Rock. Et puis pourquoi Voisine? On a fait des recherches à l'époque. À l'époque, on faisait des recherches pour
oui. pour toutes sortes de choses. On est allé en Poitou pour voir parce qu'il y avait des familles, des souches de familles voisines en Poitou, parce que comme les gens qui connaissent l'histoire un peu savent que nous au Québec, il y a beaucoup de familles du Poitou qui
mais attendez,
qui
vous auriez pu vous appeler Roch Ségolène parce qu'il y a du Poitou également.
J'aurais pu. Mais et puis finalement, c'est un peu plus tard, mon grand-père était quelqu'un qui aimait beaucoup faire des recherches et puis faire des armes généalogiques et ces choses-là.
Sur ordinateur.
Pas sur ordinateur, par contre. Et on s'est aperçu que finalement, mon ancêtre était un soldat qui était cantonné à Kamouraska, qui est sur le bord du fleuve Saint-Laurent.
En montant à gauche.
Voilà, et qui s'est probablement barré. Hein, il s'est probablement barré et il s'est réfugié au Nouveau-Brunswick et il a changé de nom. Donc, je suis de la souche des rois, R-O-Y. Donc, on disait roi d'Ivoisine et à un moment donné, le roi a tombé parce que les flics devaient être trop près. Donc, il s'est marié dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et il est resté là.
Il faut préciser qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont d'origine française, évidemment. Ouais, nos cousins québécois, c'est pas par hasard. Ben, en jeu d'assin, ça tombe bien.
Jeu d'assin, dont parlaient Lou et Zélie, a récupéré aussi, lui, des standards américains.
Beaucoup.
City of New Orleans, c'était sur le Americana 1, et ça donnait en français, salut les amoureux. Voilà. D'ailleurs, tu te chantes en anglais, en français, sur l'album.
Voilà, il y a une version bonus sur l'album, bonus. Le premier album, qui offre une version bilingue.
J'adore cette chanson.
On l'écoute.
Good morning, America, how are you?
On a un peu plus de mal avec la version anglaise, donc pour reprendre le refrain.
City of New Orleans, il chantait bien Dassin aussi. Hein. Ouais. Il a écrit
et
les chansons.
Et la brillance aussi de ramener ces chansons-là.
Et alors, le son du studio, c'est les mêmes musiciens qui vous ont accompagné sur les deux albums.
Oui, à peu près dans les mêmes studios. Quand on a une recette gagnante,
c'est exactement
on change pas.
C'est pour ça, Raphaël, avec son générique. Quand on a un générique comme ça, il faut pas le changer.
Non, non.
Faut l'écouter sur les haut-parleurs américains aussi, plus des basses comme ça.
Et vous, comme tous les Canadiens ou Québécois, Roch voisine, l'accent s'atténue quand vous chantez en français. Vous avez une explication à ce phénomène
on se force
multidiffusé.
C'est-à-dire qu'on peut aussi se forcer et puis chanter québécois. Ça existe aussi, chanter en entre guillemets en québécois. On a des artistes chez nous qui chantent avec notre accent à nous. C'est très bien aussi, mais on comprend un peu moins bien ici. Mais c'est vrai qu'en chantant habituellement, quand on étire les syllabes, on enlève beaucoup de l'accent. Même les Anglais, les Anglais qui parlent avec un gros accent d'Angleterre, Cockney ou par exemple Phil Collins, que vous entendez parler, quand ils chantent, on le sent pas.
Et vous, quand vous parlez anglais, vous parlez comme les Américains?
Oui, je suis de là, donc.
La frontière est pas loin.
Je suis né, j'ai grandi juste. Il y avait une rivière qui nous séparait. Hein,
et vos deux parents étaient profs d'anglais? Vos deux parents étaient profs d'anglais, donc vous avez...
Il y avait Roch et voisine.
Voilà.
Merci, on attendait 20h25 pour la faire, celle-là, écoute.
Mais il faut savoir, si vous n'êtes pas allé au Québec, allez-y un jour. Ce qui est bouleversant, mais je suis allé il y a tellement longtemps, que c'est un...
Mais il faut revenir parce que les gens s'ennuient, hein.
Ben oui, mais j'aime bien aller là-bas. Mais c'est quatre fois grand comme la France.
C'est très grand, tout est très grand.
Ils sont 7 millions d'habitants, dont 2 millions et demi à Montréal. Donc c'est une petite population pour un pays immense.
Immense.
Et ils se battent depuis toujours... pour notre langue, alors qu'ils sont aux portes du géant américain. Ça, je trouve ça incroyable. La frontière est à 45 minutes. New York, c'est à 45 minutes. Eh bien, ils se battent pour notre langue, et ça mérite des applaudissements.
Vous comprenez, Roch voisine, vous, cette espèce de filiation des Québécois vis-à-vis des francophones et de la France, cette envie d'exister aussi à part entière?
Mais je pense qu'elle est naturelle. On est très peu de francophones. On est quoi, 6 millions de francophones, probablement en Amérique du Nord. Et on est entouré de 360 millions d'Américains.
D'anglophones.
Et autres. Donc, je pense que on est un peu les gardiens du feu sacré. Et selon la région, par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a une petite région qui s'appelle l'Acadie, c'est pas vraiment un pays, mais ils revendiquent encore plus que les Québécois, cette francophonie. Cette langue, ils ont été beaucoup plus malmenés que les Québécois aussi par les Anglais à une certaine époque, mais c'est fascinant encore aujourd'hui, c'est palpable.
Vous savez quel est un des chanteurs les plus populaires français au Québec, c'est Yves Duteil. Il a écrit La langue de chez nous, que qui bouleverse les Québécois quand ils l'écoutent.
C'est presque devenu un hymne pour nous.
Un hymne, absolument.
Ah oui, je pense que oui. Ça tient de l'hymne.
Et puis il faut rappeler que la plus grande chanteuse de variété au sens large du monde, elle est francophone, c'est Céline Dion.
Absolument.
Quand même.
Ah, quand même. Donc,
merci,
pour un petit pays, on est pas mal.
On vous souhaite le même succès. Merci beaucoup, Rock Voisine.
Ça me fait plaisir.
Alors, Canada 2, qui accueilli. Est déjà dans les bacs. Hein,
oui.
Donc, vous pourrez l'acheter ce soir.
Olympia 30 et 31. Tout le fan club qui est là a déjà son sac de couchage. Ils vont coucher dans l'Olympia. Et ensuite, il ira dans toute la France.
On va vraiment partout en France.
Merci beaucoup. Demain, Florence Artaud, Elsa Zilberstein. Dans un instant, le sport. Merci Wendy, à demain.
Merci Michel.
Bonsoir
à tous.
Merci Rock.
Studio Europe 1.